Décombe. Heureux malgré tout. Chapitre 1er. À Bellegarde. Le conseil de famille qui entourait Lucette d'un rempart inébranlable, son père et sa mère, monsieur et madame Martin, grand-papa et grand-maman Martin, grand-papa et grand-maman Dupin, déclarèrent d'un commun accord qu'il n'était pas question de mariage avant la fin de la guerre. Ce serait fou, simplement, d'installer cette précieuse enfant dans un Paris où, chaque soir presque, on devait descendre à la cave ou se réfugier dans les couloirs du métro. Pierre disait bien aussi qu'il n'y consentirait jamais. Il fallait attendre la paix. « Mais si la guerre dure 100 ans, s'écriait Lucette, tour à tour en larmes ou en colère. Car enfin, voyez l'histoire, il y a eu une guerre de 100 ans et il a même fallu Jeanne d'Arc pour qu'elle finisse. Il y a eu une guerre de 30 ans, il y a eu une guerre de 7 ans, nous serons tous morts avant la paix, vous verrez. » Et en attendant, les fiancés étaient séparés, Pierre à Paris, montant son petit atelier dans l'usine même pour débuter sans trop de frais. Lucette chez elle, travaillant avec de grands soupirs à son fin trousseau, où son aiguille piquait moins de points que celle de sa maman. Grand-mère Dupin brodait admirablement et se chargeait des initiales fleuronnées et paraffées. Grand-mère Martin se spécialisait dans des ourlets à jour. Elles avaient encore de très bons yeux, ces chères vieilles dames, qui dépassaient à peine leurs 65 ans. Chaque fois qu'on montrait à M. Martin une nouvelle pièce du trousseau, achevée dans le joli luxe de ses plumetis, de ses ajours et de ses festons, il hochait la tête d'un air pessimiste. « Je vous garantis, moi, disait-il, qu'avant la paix, jamais un trousseau suisse n'entrera en France par la douane. Et tu ne voudrais pas, Lucette, que je me fasse contrebandier à mon âge. Ainsi, tu vois. »« Qu'est-ce que je vois, papa ? Je ne vois rien !» faisait l'entêté. « Tu vois qu'il n'est pas question de te marier avant la paix. Tu ne voudrais pas te marier sans trousseau ?»« Je vais demander à Pierre s'il me prendrait sans trousseau. Madame Gavenard nous prêterait ce qu'il nous faut. Les Gavenards sont de nouveau riches, ils regorgent de tout. » « Lucette, Lucette, sois pondérée !» soupira sa maman. « Nous vois-tu, empruntant du linge aux Gavenards ? Ils sont très bons, très aimables, ils t'ont même gâté pendant le petit séjour que tu as fait chez eux. Mais quand t'as emprunté du linge, nous pourrions leur en revendre, et du beau. » « Pourquoi ne pas acheter mon trousseau à Paris ? » persista Lucette. « Ce serait tellement plus simple. » « Il n'y a plus de toile en France !» déclara sévèrement et d'un ton définitif grand-maman Martin, qui assistait à cette discussion, sans d'ailleurs que son aiguille en perdît une bouchée d'ourlet. « Ma petite fille, tu es une fiancée de guerre, ne l'oublie pas. Tu es la fiancée d'un soldat. Nous vivons une période historique. Tu évoques les longues guerres, pense à Jeanne d'Arc. Comment se conduirait-elle à ta place ?» Voilà ce que tu dois te demander sans cesse. » Écrasée sous le poids d'un tel modèle, Lucette baissa enfin le menton et se tut. Mais sans qu'elle s'en doutât, une vive compassion attendrissait les cœurs du conseil de famille. Grand-maman Dupin croyait remarquer que Lucette maigrissait. Pierre avait envoyé sa photographie, on lui trouva mauvaise mine. Une petite réunion en Suisse s'imposait. À vrai dire, Pierre, n'ayant encore aucun personnel dans son atelier, pouvait s'absenter aisément. Monsieur Martin lui écrivit « Profitez de ce que la frontière est ouverte en ce moment. Venez passer quelques semaines auprès de nous. Lucette est absolument déraisonnable, nous ne savons plus par où la prendre. Tâchez qu'on vous accompagne jusqu'à Bellegarde. Nous n'avons que cette porte ouverte sur la France, et encore, vous savez qu'elle se ferme souvent. » « Prévenez-moi par télégramme, j'irai vous prendre à Bellegarde. » Cette lettre, par le lent couloir de la censure, mit 10 jours à parvenir. Vous vous rappelez comment nous vivions de crainte, de retard, d'impatience, dans ce temps-là qui semble déjà lointain. Quand Pierre l'a reçue, il s'alarma, il crut voir Lucette énervée, hors des gonds, perdant le sommeil et l'appétit. La frontière était ouverte, mais pour combien de temps encore ? Et pour combien de jours, ensuite, se refermerait-elle ? Pierre eut un bref entretien avec M. Gavenard. Rien ne me retient pour l'heure. Mon atelier est prêt à fonctionner, mais je n'ai encore embauché personne. Je pourrais m'absenter 3 semaines sans aucun inconvénient. Mon passeport, grâce à la prévoyance de M. Martin, est encore valable et n'a plus qu'à être visé à la préfecture de police. Je peux faire cela d'ici midi, passer à la gare de Lyon pour retenir une place et prendre le train ce soir. Rien de plus facile si vous me prêtez Clément pour m'accompagner. Clément ? Pourquoi pas Rick ? Demanderez-vous. C'est que Rick n'était plus à Paris avec son cousin. 6 mois de vacances ayant complètement rétabli sa santé, son père, et Pierre aussi d'ailleurs, avaient jugé possible et raisonnable qu'il se mît sérieusement au travail. À Pâques, il était rentré en Suisse. Son semestre d'études à la rapide lui ayant fait acquérir bien des connaissances préparatoires, il avait passé aisément son examen d'entrée dans une bonne école technique, d'où il comptait bien ne sortir que pour entrer à l'école polytechnique de Zurich et y prendre son diplôme d'ingénieur mécanicien. Combien son aimable présence, sa conversation, sa vigilance et ses bons offices avaient manqué à son cousin aveugle, c'est ce que Pierre n'avait confié à personne. Tous les détails de sa vie lui étaient devenus difficiles, et peut-être son propre cafard fut-il pour quelque chose dans la promptitude avec laquelle il s'alarma du cafard de Lucette. « Clément est à votre disposition, cela va sans dire, » prononça M. Gavenard. « Cependant, je serais étonné si vous arriviez à partir ce soir. »« Pourquoi donc ?» fit Pierre avec impatience. « On part quand on veut. »« Vous croyez encore cela ?» Vous croyez que, depuis la guerre, il reste une chose, une seule chose, qu'on fasse quand on veut et comme on veut? Mon pauvre ami, quelle illusion! Le temps n'est plus de vivre d'illusions, s'exclama M. Gavenard, toujours assez pompeux. Pierre partit cependant pour ses démarches. À la préfecture, les files s'écartèrent, les portes s'ouvrirent, les agents s'empressèrent, et même le fonctionnaire au visa fut poli. À Paris, cette année-là, on aurait encore poussé de côté la colonne Vendôme pour laisser passer un aveugle de la guerre. Le visa fut obtenu en 5 sec. Clément n'en revenait pas. « Je connais, déclara le bon vieux, une dame d'officier qu'on l'a fait poireauter 3 semaines et qu'elle a fait des séances de queue qu'elle s'est évanouie pour finir. Et alors, au lieu qu'on la porte dans la salle, non, elle a perdu sa place et c'était à recommencer. » « Mais vous, on vous met dans un gobelet et passez muscade. » « Ce sont là, dit Pierre, les grands avantages qu'il y a à être aveugle. Nous allons voir si ça jouera à la gare de Lyon. » Il connaissait l'employé au renseignement. Celui-ci leva les bras au ciel. C'était un vieux territorial du midi. « Ce soir, cria-t-il tragique, vous voulez partir ce soir? Pas avec le train, toujours, dites. Les places sont retenues jusque sur la machine. » « C'est urgent !» fit Pierre, pâle et irrité. « Urgent ! Ils sont tous urgents, ceux qui partent. On ne va plus en Suisse pour son plaisir. Faites-vous une raison, retenez votre place pour dans 15 jours. »« Dans 15 jours, la frontière sera de nouveau fermée. »« Ah, c'est possible. Du matin au soir, on ne sait pas. Crac, ça se décroche comme une souricière. Ils doivent s'amuser, ceux qui font marcher ce truc-là. » Enfin, allez toujours voir aux places retenues. Mais non, il n'y avait plus rien dans aucune classe. Ça m'est égal, dit Pierre, je passerai la nuit dans le couloir. J'en ai vu d'autres quand je venais du front. Le contrôleur ne vous laissera pas monter, objecta l'employé aux places retenues. Quoique, à la dernière minute, il peut toujours arriver qu'un voyageur manque son train et ça fait une place libre. Et vous n'auriez pas tort de vous hâter, poursuivit ce fonctionnaire bienveillant. J'ai dans l'idée que la frontière ne sera plus ouverte bien longtemps. Voilà 3 semaines qu'on passe, c'est trop beau pour durer. Parfaitement, déclara Pierre, je partirai ce soir quand je devrai voyager dans ma malle. Ce qui eût été incommode, car sa malle n'était qu'une fort petite valise. Il avait avec lui, ayant pris toutes ses mesures pour n'être pas obligé de rentrer à Saint-Ouen, fait ses adieux à Madame Amande, téléphoné un mot à Courtois, garni d'argent son portefeuille. L'argent ne lui manquait pas, car il avait vendu à un Américain ses droits sur le dateur Kodak, tout en se réservant la fabrication du petit appareil pour la France. Sans cette aubaine, Pierre eût été fort pauvre, n'ayant que sa pension de 100 francs par mois et un atelier qui ne lui rapportait rien encore. Pierre et Clément dînèrent ensemble dans un duval du quartier, revinrent à la gare, où chacun d'ailleurs, remarquant la cécité de Pierre, s'empressa à l'obliger. « Vous avez sans doute retenu une place de coin ?» demanda le contrôleur qui faisait les 100 pas sur le quai au long du train. « Non, j'ai mon billet, mon passeport, voilà tout. Je n'ai pas besoin d'une bonne place. Le couloir me suffirait même. » « Nous allons voir ça. Veuillez me suivre, » dit le contrôleur. Et l'événement prouva une fois de plus que la fortune favorise les audacieux, car Pierre eut une bonne place que personne ne lui disputa. Peut-être le légitime propriétaire de cette place était-il mort d'apoplexie avant de pouvoir monter dans le train. Voisins obligeants, pas de transbordement à Dijon, pas plus de retard que la normale, 4 ou 5 heures au plus. Bellegarde, où tout le monde descend. « Soyez assez bon pour me guider jusqu'au train pour Genève, » dit Pierre à un monsieur qui avait eu des prévenances pour lui toute la nuit. « Le train de Genève ? Où est le train de Genève ?»« C'est pas, chef de gare, passez par ici. »« Non, par là. » Enfin, Pierre et son guide se trouvèrent à la porte de l'antre sacré qui recélait le chef de gare. « Ah, messieurs !» articula le fonctionnaire à la belle casquette. « Messieurs, il n'y a plus de train pour Genève. La frontière a été fermée cette nuit à 12 heures. »« Et elle se rouvrira ?» demanda Pierre en s'efforçant de rester impassible. « Dans 10 jours, 12 jours, peut-être plus, peut-être moins. »« Ça, songea Pierre, c'est, ma foi, une déveine pas ordinaire. »